Cube Radio doit acquérir des matériels. De toute urgence. Soutiens-nous avec la cagnotte solidaire. www.libradio.org. Pour un don ou pour faire passer. Merci d'avance.
Alors bonjour Arnaud Bosch, historien et effectivement initiateur des apéros de l'histoire qui maintenant sont well known à Genève, ça marche bien.
Ouais, ça marche bien, ça marche bien. Là on va commencer la 8e année là.
Trop.
Ça fait 8 ans déjà que j'ai démarré, ouais.
Et alors les sujets, est-ce qu'il y en a des nouveaux tout le temps qui affleurent dans ton esprit? Et en fait tu es tout le temps en train, ou est-ce que tu es toujours en recherche de nouveaux sujets?
Alors, un peu les deux. J'avoue que là, au bout de 8 ans, j'en suis à 102 sujets différents sur l'histoire de Genève. Donc, je dois quand même reconnaître que j'arrive gentiment à, non pas à la fin des sujets, parce que les sujets, c'est infini, mais par contre, des sujets, on va dire, faciles à vulgariser. On commence à arriver dans des choses un peu plus pointues maintenant. Mais malgré tout, de temps en temps, j'ai des illuminations, ça m'arrive encore. Et puis, moi, comme rythme de travail, je m'impose, en fait, entre une et deux nouvelles conférences par mois à proposer, en fait, dans le catalogue.
Une conférence, qu'est-ce que ça implique en termes de travail? Des recherches, et ces recherches-là, où les fais-tu? Est-ce que tu vois des gens? Est-ce que tu vas aux archives? Comment ça se passe?
Alors moi, je suis bien partisan en fait des interviews, mais je dois reconnaître que j'en fais pas des masses. Donc c'est principalement ce qu'on appelle la littérature secondaire. Donc en général, je commence très souvent comme ça, c'est-à-dire que j'ai un pucier qui me connaît bien, qui va chercher un petit peu les perles rares pour moi. Puis chaque semaine, il me dit « Écoute, j'ai trouvé ça ». Je lui dis « ça m'intéresse pas ». Et à partir de ce bouquin-là, je développe une thématique que je vais aller approfondir après aux archives pour avoir vraiment quelque chose de construit. Mais ça dépend parfois en fait les trouvailles. Ou alors effectivement, parfois c'est des demandes, tout simplement. Ou des illuminations, ou des pannes sèches aussi d'inspiration, ça arrive aussi, hein, faut pas se leurrer.
En termes de temps de préparation, est-ce que toutes les conférences se valent d'une certaine manière, ou certaines te demandent des efforts particuliers?
Non, alors c'est clair que il y a vraiment des conférences qui demandent plus de travail que d'autres. J'essaye de m'imposer, vu que je suis quand même dans la vulgarisation, mais je veux quand même faire quelque chose de sérieux. En général, une conférence moyenne, c'est à peu près une quinzaine d'heures de travail, je dirais. Ça peut aller jusqu'à 30. J'essaie d'éviter d'aller plus loin. En fait, c'est très bête, mais c'est aussi pour les questions financières, puisqu'après, il faut rentabiliser ce travail. Et avec quinzaine d'heures de travail, on arrive assez facilement à rentabiliser. Une trentaine d'heures, ça commence à devenir compliqué, surtout que c'est souvent des sujets qui sont plus pointus, qui vont du coup intéresser un peu moins de monde en général. Donc, c'est un petit peu un exercice à faire. Mais bon, j'ai maintenant pris l'habitude.
On va revenir au choix des sujets, mais avant cela, la posture d'aller dans des bistrots énoncer ses conférences, pourquoi?
Alors, c'est pas une invention de ma part, on va préciser tout de suite, c'est une vieille tradition genevoise en fait. C'est une institution pas très loin de l'Almacène, puisque c'est l'Université ouvrière de Genève en fait qui a instauré ça à la fin du 19e siècle. Où l'idée, en fait, le postulat de base, c'était d'amener la culture générale là où il y avait les ouvriers. Et où est-ce qu'ils étaient à cette époque? Et à la fin du 19e, c'était dans les bistrots énormément. Donc en fait, c'était des conférences de culture générale dans les bistrots. Et en fait, moi, à la fin de mes études, comme très souvent, j'étais au chômage. Et puis du coup, je me suis dit, j'ai un copain qui avait un bistrot avec une mezzanine. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de retenter l'expérience en transformant simplement la chose pour aller vraiment sur l'histoire genevoise, parce que j'avais constaté que déjà les gens aimaient ça mais ne connaissaient pas du tout l'histoire genevoise. Et d'autre part, en fait, j'avais un peu constaté que genre Autrefois Genève, par exemple, l'émission sur les Monts Bleus, un carton depuis, ils ont fêté les 10 ans, il y a 2 ans maintenant, si je ne me trompe pas. Donc c'est un carton monumental, donc il y avait visiblement de la demande, et effectivement, ça a été le cas.
Et alors, comment cela est-il reçu? Est-ce que tu as facilement trouvé les bistrots qui se prêtaient à l'exercice et également un public?
Alors, oui. Alors, écoute, pour l'anecdote, quand j'ai commencé la première fois, donc c'était au Palais des Bières, aux Acacias, je m'étais dit, on y va, je lance, j'avais fait un petit programme avec 2-3 conférences, il y en avait un par mois, en me disant, allez, si j'ai 7-8 personnes, je serais déjà content, ça va être chouette. Dès la première, j'en avais 15 de personnes. La deuxième, j'en avais 21. Puis après, ça s'est stabilisé un petit peu entre ces deux, ces eaux-là. Et c'est toujours un peu ce que j'ai à l'heure actuelle. Et ça, c'était la première année. Et dès le milieu de la première année, il y a un autre bistrot qui ouvrait à Carouge, qui était intéressé par l'idée, en me disant, ça te dirait d'essayer d'en refaire. Puis du coup, Bah évidemment, ouais, bah c'est clair. Hein. Et peu à peu, en fait, il y en a eu un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, puis en fait, c'est comme ça. Et pour l'anecdote, donc là, il y a un nouveau bistrot qui va commencer au mois de février, puisqu'il y en a plusieurs qui se sont arrêtés à la fin de l'année dernière. Donc, t'as la primeur, j'ai même pas encore annoncé, mais ça va commencer à la Jonquille. Donc justement j'essaie de trouver des lieux
tout
qui ont
bistrot, oui.
tout nouveau bistrot mais qui ont aussi des valeurs qui me plaisent. J'essaie d'aller dans les endroits où par exemple les tarifs sont abordables. Je vais pas aller dans les endroits où la bière est à 9 francs pour les 3 décis quoi. J'ai quand même un public qui se veut en tout cas très large mais pas tellement dire bourgeois. Oui. Donc il faut quand même qu'on puisse, l'idée d'aider le bistrot, mais à condition que le bistrot y mette du sien aussi, entre guillemets quoi. Oui. Donc là ça sera à la Jonquille, ça va commencer à la Jonquille à partir de février, puis donc ça c'est une primeur, j'ai même pas encore annoncé sur le site.
Et alors voilà, justement, parlons du site en quelques secondes, pour les personnes qui souhaiteraient ensuite t'accoster, venir participer ou te faire des propositions, elles peuvent le faire via le site internet.
Exactement, donc c'est apéro-de-l'histoire.ch, apéro avec un S puisqu'il y a toujours plusieurs verres. Et puis là il y a non seulement alors le catalogue comme j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire il y a une section qui s'appelle bibliothèque où il y a tous les sujets que j'ai déjà traités. Donc ça permet aussi simplement pour une occasion unique de dire bah tiens il a travaillé là-dessus, je veux bien. Ou alors il y a évidemment le programme de toutes les conférences à venir. Il y a plus les infos, etc. Enfin, okay. Les classiques. Ouais. Rien de particulier quoi.
Très bien. Sur les réseaux sociaux, es-tu également à peu près?
Oui, je suis sur Facebook énormément. Okay. J'aime pas beaucoup ça, mais faut être honnête, c'est devenu indispensable. Donc je suis pas sur Instagram encore, j'ai pas encore réussi à m'y mettre, mais je suis sur Facebook, là aussi Apéro de l'Histoire, on trouve très facilement. Et puis pareil, là c'est très à jour et puis il y a un événement pour chaque conférence.
Y a-t-il des sujets tabous, des sujets que tu t'interdis? Ou des sujets dont tu sens qu'ils sont par moments délicats alors que l'on repousse, ou dont on est avec lesquels tu es plus prudent?
Alors que je m'interdis, non. Qui sont délicats, oui. Enfin, c'est les classiques, c'est les sujets politiques, les sujets religieux. Alors quand je parle de sujets religieux, par exemple, ça va pas être, par exemple, la réforme n'est pas du tout un problème pour être traité ici. Encore que ça dépend comment on le traite, mais ça c'est encore un autre problème. En revanche, c'est triste à dire, mais par exemple, j'ai voulu faire une conférence sur l'histoire de la communauté juive de Genève. C'était un peu plus délicat, non pas parce que c'était la communauté juive, mais parce que tout simplement, on a une surveillance un peu plus importante qui se fait, de par la communauté, de ce qu'elle a subi, évidemment, hein, c'est ce que j'entends par là, pas du tout en train de dire autre chose, mais c'est tout de suite un peu plus délicat, à savoir que moi, je vais à peu près jusque dans les années 30, en général, dans mes recherches, c'est rare que j'aille beaucoup plus loin, donc les sujets politiques peuvent être un peu délicats parfois, parce qu'il y a encore des gens vivants. J'ai eu fait l'histoire de l'extrême droite genevoise, par exemple, où je m'étais dit pas de problème, ça va être génial. Et en fait, dans le public, un jour, je m'en rappelle, il y avait en fait le neveu de Georges Ultramar qui était là. Alors, le type était très sympa. Il n'avait heureusement pas les mêmes idées que Georges Ultramar. Mais malgré tout, en fait, mon rôle d'historien, j'essaye de, même si je suis clairement catalogué comme un historien de gauche, sans aucun doute et assumé, j'essaye quand même d'être le plus neutre possible. Et notamment, il avait apprécié le fait que je disais, et je le pense sincèrement, que Georges Ultramar, certes, était un saloperie de facho, comme on peut pas. Voilà, ça c'est clair. Par contre, c'était quand même quelqu'un de brillant, qu'il fallait pas lui enlever ça. Et il était hyper touché de dire, vous êtes un des premiers qui ose dire que mon oncle, en fait, bah, c'était quand même quelqu'un qui était pas bête, quoi. Mmh. Je lui dis, mais ça, c'est indéniable, c'est absolument indéniable. Après, bah, évidemment, suivant le public qu'on va avoir en face, la réception peut être bizarre. J'ai une anecdote où j'avais fait une conférence, c'était un truc privé, dans le bateau Genève, pour, en gros, le parti radical qui était là. Et j'avais fait une conférence sur l'anarchisme à Genève. Il m'avait demandé une conférence sur l'anarchisme, donc j'étais tout étonné. Et puis, je leur avais dit, par exemple, je parlais de la révolution radicale en disant que c'était le moment où les radicaux étaient de gauche. Je me dis, oui, rappelez-vous. Et donc, comme j'aime bien lancer des petites piques, y a des fois où c'est un peu délicat. C'est un peu délicat.
D'accord.
Mais bon, c'est assumé.
Ouais. Okay. Y a-t-il comme ça des figures tutélaires que tu as plaisir à égratigner? Théodore
oui.
de Bèze, Calvin, bien entendu. Là, on parlait de James Fazi.
Voilà. Alors, étonnamment, Calvin, c'est plutôt un personnage que j'ai tendance à, au contraire, redorer le blason.
Okay.
Alors, pas du tout protestant ni quoi que ce soit, mais simplement parce que, justement, il a été tellement diabolisé au fil du temps et que quand on regarde en détail, certes, sur certaines choses, il était extrêmement passéiste, sur d'autres, par contre, il avait 300 ans d'avance, quoi. Dire une anecdote en passant comme ça, c'est quand même lui qui, en 1607 déjà, avait créé la première prison de Genève, où en fait, quand on était dedans, on apprenait un métier. C'était une obligation, en fait, ce qu'on appelait la discipline. On apprenait le métier d'horloger ou il y avait 4 ou 5 métiers qu'on pouvait apprendre et en sortant dans l'idée de se réinsérer dans la société. Chandelon, ils essaient toujours maintenant. Hein. Donc,
c'était Saint-Antoine déjà à l'époque ?
Non, c'était en fait l'actuel palais de justice.
Ah, d'accord.
L'actuel palais de justice, voilà. Dans l'ancien hôpital général, ça s'appelait. Donc non, comme figure tutélaire, alors moi il y a Henri Dunant que j'aime bien taper dessus, parce que Henri Dunant, alors justement c'est une espèce de sacro-saint, on touche pas, créateur de la Croix-Rouge, il dit oui, puis aussi esclavagiste, colonisateur.
En Algérie.
C'était quand même un sacré bourgeois qui a complètement en fait passé outre tous les autres, on a oublié hein, les Gustave Meunier et compagnie, qui c'est surtout Gustave Meunier en fait, et la société de bienfaisance genevoise, société publique pardon, de bienfaisance qui a créer la Croix-Rouge, lui a été le porte-parole, on dit, mais parce qu'il avait beaucoup de fric et puis qu'il avait des contacts. Mais faut quand même se rappeler, il était quand même suffisamment connu déjà en étant jeune pour pouvoir rencontrer Napoléon III.
Absolument.
Il a quand même réussi à voir un empereur. Donc c'est que le gars, il était déjà pas le dernier des.
Il avait
un
carnet d'adresses.
Ouais. Donc j'aime bien les ratiner. James Fazi, même si c'est une personnalité que j'apprécie beaucoup, j'aime bien rappeler un petit truc, c'est que le système faziste, c'est quand même, enfin si on dit, c'est quelqu'un qui avait le contrôle des médias, puisqu'il avait tous les journaux à l'époque, qui a viré tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, qui avait le contrôle de l'armée, qui avait le contrôle de l'académie et qui avait le contrôle également de la santé. Ben, on appelle ça une dictature. Hein. Je suis désolé, mais on appelle ça une dictature.
Hein. Absolument. C'est vrai que là, tu écornes l'image de James Fazi, comme on peut l'entendre.
Oui, même si. Mais en même temps, c'est indéniable, puisque ça va être le sujet Saint-Gervais.
Voilà.
James Fazi, je n'ai même pas fait exprès en plus. Hein. Mais James Fazi est quand même on lui doit la Genève telle qu'on la connaît, la Genève moderne, avec ses travers évidemment et puis ses erreurs, mais la Genève moderne telle qu'on peut la voir, où on peut se balader tranquillement, c'est James Fazi. Point. Il y a une période qui est un peu moins connue avant James Fazi, entre la Restauration et James Fazi, qu'on appelle les 17 ans de bonheur, 27 ans de bonheur, la période en fait après la Restauration, où oui, c'est 27 ans de bonheur pour les riches, mais en fait c'était une catastrophe économique et politique absolument incroyable, et il a fallu James Fazi, c'est pas pour rien qu'il y ait une révolution et non pas une évolution, c'est qu'il fallait changer tout du tout au tout. Alors, pour faire très simple, dans cette période, la Restauration, qu'est-ce qu'on a restauré ? On a restauré l'Ancien Régime. On est revenu au niveau des droits acquis par la rive droite en particulier, on est revenu à l'état de 1707 alors qu'on était en 1815. Donc, alors que la Restauration, elle est fêtée hein, le 31 décembre, si c'est férié à Genève,
voilà.
C'est à cause de ça, c'est pas le passage de l'année. Hein.
Exactement.
Ça n'a rien à voir.
C'est la fête nationale de la
République Genève. Absolument. Ouais. Qui anciennement était le 1er juin, ouais. Par contre. Avant, c'était le 1er juin, ils l'ont déplacé le 31 décembre.
Alors, on entre de plein pied dans le quartier de Saint-Gervais. Aujourd'hui, il y a eu ce rassemblement pour la piétonnisation du quartier.
Une partie du quartier,
notamment du Quai des Berges où on se trouve. Et alors, toi, tu as parcouru également ce quartier-là et tu es intervenu ici et là pour rappeler quelques petits détails, notamment à la place Grenu.
Alors, très très bref, effectivement, parce que c'est un quartier qui a la particularité, tout d'abord, d'en être un. Qu'est-ce que j'entends par là ? On parle très souvent du faubourg de Saint-Gervais. Il faut savoir que le terme de faubourg ici est utilisé de manière péjorative. Les faubourgs, officiellement, à Genève, il y en avait 3. Plein Palais, les Eaux Vives et le Petit Saconnet, à savoir les Paquis. C'est les 3 seuls faubourgs. Pourquoi faubourgs ? Parce qu'ils étaient hors des fortifications. Saint-Gervais était dans les fortifications. Ça fait vraiment bel et bien partie de Genève, et ce, depuis le début. La seule particularité de Saint-Gervais, c'est que elle a été très vite coincée, encore plus vite que Genève, dans ses fortifications, et elle s'est très 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 rapidement vraiment densifiée à l'extrême. D'autre part, c'est un quartier qui était foncièrement populaire, au sens propre du terme. Donc on avait beaucoup les artisans, les ouvriers dans une moindre mesure. Ils étaient plutôt au Segey, à l'ancien quartier du Segey, qui était démoli dans les années 30. Mais plutôt des artisans, les petits ouvriers, où on va dire Saint-Gervais était un peu plus une classe sociale, un poil en dessus du Segey. Mais le problème était quand même le même. c'est que la densité en fait et la densification du quartier a créé en fait une insalubrité absolument gigantesque. On a la dernière la dernière épidémie de choléra dans le quartier date des années 1870 à peu près. Elle était tellement importante qu'on a décidé en fait de percer des grandes voies dans le quartier. Donc c'est l'actuelle pas rue Rousseau qui était déjà là auparavant qu'on appelait la rue Chevelu, mais la place Grenu, la rue Lessignol, Paul Bouchet, la rue Valin. Toutes ces rues ont été percées dans les années 1870-1880 par des legs de privés en général, dans l'idée en fait d'aérer le quartier. Or, et c'est ce que j'ai relevé sur la place Grenu, à la place de aérer, on a maintenant le parking de Manor qu'on nous a mis là. Donc c'est quand même un comble absolu, et puis c'est surtout un rejet des raisons mêmes qu'on a voulu faire ça. Il y a vraiment un rejet total de Saint-Gervais qui ne date pas d'aujourd'hui, puisque bah, comme je le disais avant, James Fazi, la révolution radicale, est née à Saint-Gervais. On a quand même tiré à boulet du canon, hein, littéralement, entre la rive gauche et la rive droite, pour que la rive droite ait les mêmes droits que la rive gauche. On en était là, hein, en 1850. Donc, c'est pas si vieux que ça, en y réfléchissant. Hein. 1850, quand même pas très très longtemps. La rive droite, en fait, qui était donc le coin des cabinotiers principalement, ce qu'on appelait les cabinotiers, donc c'était l'horlogerie. Il y avait l'indiennerie qui était là avant, mais qui s'était éteinte peu à peu. Ces cabinotiers amenaient l'argent en fait à Genève, puisque c'était l'horlogerie florissante de Genève. Beaucoup d'échanges avec Paris, avec énormément de pays autres que la France d'ailleurs, qui ont enrichi Genève. Pourtant, c'était ce qu'on appelait des natifs. Donc, on les appellerait des secondos en fait aujourd'hui. Donc, c'est littéralement des étrangers, mais nés à Genève. Donc, vraiment des secondos. Ouais. Le seul problème, c'est qu'ils n'avaient du coup pas de droit politique à ce moment-là. Donc, non seulement ils amenaient l'argent, mais ils n'avaient absolument aucun droit de regard sur ce qu'on faisait de l'argent qu'ils récoltaient, plus ou moins. Et en fait, cette révolution radicale a été amenée justement pour ça. L'idée a vraiment été en fait de lutter pour que les natifs obtiennent ces droits. Le politique, ce qui s'est fait donc par la force Ah, 7 mai. Non, 7 novembre 1846, pardon, j'ai eu un blanc.
Novembre
1846. Ouais. Okay. Et la constitution radicale, elle date de janvier 1847. Elle est appliquée à partir de 47.
Okay. Eh bien, Arnaud, merci beaucoup.
Merci à toi.
Encore une petite question ou deux, et puis ensuite on te laissera vaquer. À
pas de problème.
Nous avons la place Simon Goulard, qui elle, effectivement, est piétonnisée, qui est accolée à l'église. Église à laquelle sont encore pendus ces fameux sceaux colorés aux sceaux de Genève. Voudrais-tu dire quelques mots de ces sceaux? Pourquoi sont-ils là et pourquoi sont-ils finalement encore si visibles?
Ouais, c'est un peu un symbole en fait. Il faut savoir que lorsqu'on achetait ce qu'on appelait la bourgeoisie à Genève, était un titre qu'on achetait, qui n'était pas hors de prix d'ailleurs, puisqu'on voit que même des aubergistes pouvaient se l'offrir. Donc ce n'était pas quelque chose qui était extrêmement cher. Quand on devenait bourgeois, à Genève, il y avait plusieurs conditions. Pouvoir le payer, bien évidemment, et pouvoir amener une arme, mais également des sceaux. Pourquoi ces sceaux? C'est qu'en étant bourgeois, on devenait en fait également les protecteurs de Genève, à la fois politiquement, en étant des bourgeois, fiscalement, on va dire, puisqu'on payait un peu plus d'impôts, et puis qu'on allait asseoir notamment en fait l'hôpital général, donc le fait que pouvoir subventionner en fait les plus pauvres à Genève, puisque ça aussi c'est Calvin qui l'a créé en 1535 hein, quand même déjà, l'hospice général, hein, n'oublions pas. Et la troisième chose, c'est qu'on devenait littéralement protecteur de Genève pour les incendies. Il faut se rappeler que pendant très 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 longtemps, la ville était en bois, et que bah, le bois, ça brûle. Et en fait, il y a eu à cet endroit-là, en fait, le pont de Bel Air, qu'on appelait le pont de la Cité, un énorme incendie en 1617, qui a été complètement vraiment dévasté, avec en fait pas mal de problèmes, parce que c'était en plein hiver, on n'arrivait pas à prendre de l'eau dans le Rhône, qui était partiellement gelé. Le bois, en plus, faisait monter l'humidité et du coup ça attisait le vent. Enfin, il y a eu des trucs assez incroyables. Et en fait, pour se souvenir de ça, ces sceaux ont été mis au-dessus de la fontaine pour dire voilà, les fontaines sont là pour pouvoir éteindre les incendies de Genève.
D'accord. Y a-t-il d'autres singularités comme ça qui ont traversé les âges selon toi lorsque l'on déambule dans ce quartier?
Oh oui, oula, énormément. Alors, il y en a beaucoup. Alors, deux, trois choses un petit peu rigolotes rapidement. Sur la rue Rousseau, au niveau du numéro 20, si je ne me trompe pas, il y a, ouais, ce, au numéro 20, donc plutôt en bas de la rue, si on est au niveau du Quai des Bergues, il y a sur la gauche une espèce de sceau avec en fait trois couronnes. Ces trois couronnes sont surmontées en fait d'étoiles des croix de Malte, parce que en fait à cet endroit-là, ce symbole est très très ancien. J'ai pas réussi à trouver exactement de quand il date, mais ce que je peux dire, c'est qu'au XIVe siècle, à cet endroit-là, il y avait des Templiers qui étaient. Donc, est-ce qu'il y a un rapport ? C'est probable. Le hasard fait, alors pour les fans de conspiration et puis autres, voilà, on voit trois points de suspension, que le même immeuble a accueilli un autre fondateur de la Croix-Rouge, Élie du Commun, qui est plus connu en fait pour quelque chose d'autre, c'est que c'était le grand maître de la loge franc-maçonne. Donc voilà. D'accord. Alors par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire sur des choses un peu rigolotes là Bon, sur l'école ménagère, il y aurait beaucoup de choses à dire. Hein. Ça, c'est quand même un bâtiment déjà qui est sacrément imposant, qui est assez drôle à observer un peu en détail aussi, et puis qui a marqué une époque aussi. Hein. Quand même une école qui a été officiellement faite par les femmes, pour les femmes, pardon. Mais en fait, quand on regarde, tous ceux qui étaient à la tête, c'était les patrons des grandes entreprises genevoises qui voulaient simplement améliorer la productivité de leurs ouvriers le lendemain. Donc en fait, en enseignant aux femmes, ça permettait de délester un petit peu le travail des hommes le soir. C'était juste ça, c'était pas un cadeau aux femmes.
D'accord.
C'était pour améliorer
des
la productivité.
Comme ça,
point. Voilà.
Ok, écoute, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En te remerciant beaucoup.
Bah, merci à toi.
Temps. On va peut-être rappeler encore le site internet.
Donc c'est www.apérodelhistoire avec un S à apéro.ch.
Et puis ton actualité, les prochaines conférences ont-elles déjà un programme ?
Alors, je vais parler de l'histoire de la jonction à la jonquille. Donc, je crois que ce sera le 19 février, si je ne m'abuse. Donc, c'est un mercredi. C'est le mercredi juste après les vacances de février. Donc là, ce sera l'histoire de la jonction. C'est toujours un peu une tradition quand je commence un endroit, c'est faire l'histoire du lieu où on est.
Ouais.
On verra après sur quoi on va partir. Je pense que je vais partir sur l'histoire des brasseries genevoises. Une conférence que j'ai faite assez récemment, qui a eu pas mal de succès. Bizarrement, l'alcool, ça marche bien en général.
Okay.
Et puis, sinon, à l'accolade, je suis en train de travailler sur un gros. Alors voilà un gros sujet, par exemple, où je suis pas encore totalement prêt. Donc on verra. Mais à l'accolade à Carouge, c'est fin janvier. Je risque de parler de l'accueil des communards en fait à Genève dans les années 1870.
C'est drôle, on en parlait tout à l'heure. On disait tiens, des communards se sont réfugiés à Genève.
Et oui.
Et tu vas nous parler de ça.
Ouais, alors je suis en train de chercher parce que là par exemple au niveau des archives, je me casse un peu les. Voilà. Les noix.
Okay.
Non, c'est pas évident. C'est pas évident, mais j'ai trouvé quelques articles, notamment il y a un historien qui a travaillé dessus dans les années 1920. Qui a fait quelques trucs et j'ai trouvé dans les revues du Vieux Genève quelques petits articles, mais pour l'instant j'ai pas encore de quoi faire vraiment gros truc, mais j'arriverai à bricoler. Et pour la petite anecdote, j'ai choisi ce sujet parce que j'ai travaillé sur l'image de Genève dans le tourisme en fait au fil du temps, et dans les années 1880, ils se vantaient d'avoir accueilli les communards. Et en fait, c'est pas un hasard, c'est parce qu'à cette époque-là, c'était les anticléricaux qui étaient au pouvoir. Donc avoir des communards communistes accueillis à Genève, c'est un peu surprenant en fait d'avoir ce côté-là. Donc donc voilà, je suis en train de creuser ce sujet-là.
Bon, on se tiendra bien en alerte. Y a-t-il une newsletter à laquelle on peut s'inscrire ou est-ce que voilà, il faut visiter très
faut visiter. Très sincèrement, je me suis jamais amusé à faire une newsletter. Je trouve qu'on en reçoit tellement déjà que finalement on les regarde plus vraiment. Donc voilà.
Arnaud Bosch, merci beaucoup.
Merci à toi.
Libre Radio doit acquérir des matériels. De toute urgence, soutiens-nous avec la cagnotte solidaire. www.libradio.org. Pour un don ou pour faire passer. Merci d'avance.